Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal. Blaise Shindani Kambala à la présentation.
Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal vespéral dont voici les titres. Situation humanitaire déplorable des déplacés cantonnés dans la localité de Kaira, en territoire de Massissi. Selon des sources dans la zone, depuis leur arrivée dans cette zone, il y a 2 semaines, ces déplacés internes vivent dans des conditions très difficiles et sans assistance. Nous parlerons aussi du 2e jour consécutif des embouteillages monstres créés par les véhicules poids lourds dans la ville de Matadi au Congo central. À cause de ces bouchons constatés dans toutes les artères principales de la ville, la population fait des longues distances à pied. Notre invité est Sylvain Idumbo Bin Munganzi, coordonnateur provincial du service national de promotion de l'élevage familial et un temps connexe. Il nous parlera des nouvelles pratiques pour l'élevage des poules et des porcs enseignés aux éleveurs de Kindu, Pangi et Lubutu pour améliorer la qualité et la quantité de leur production. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Au Nord Kivu, la situation humanitaire critique des déplacés cantonnés dans la localité de Kaira, précisément à Kamatembe, située à l'ouest de Kichanga, dans la chefferie de Bachali, en territoire de Massissi. Selon des sources dans la zone, depuis leur arrivée dans cette zone il y a 2 semaines, ces déplacés internes vivent dans des conditions très difficiles et sans assistance. Ils plaident auprès de la communauté humanitaire de leur venir en aide afin d'éviter les pires. Plus de détails avec Alain Hirung.
Ces déplacés dont le nombre n'est pas encore connu connaissent une situation humanitaire déplorable selon nos sources. Ces derniers sont dépourvus de presque tout. Nos sources ajoutent que la majorité des déplacés, dont les femmes et les enfants, vivent dans des écoles et sont exposés à toutes sortes d'intempéries depuis leur arrivée dans cette zone. Ils vivent dans des conditions inhumaines sans aucune assistance. Ils manquent de nourriture, de médicaments et d'abris provisoires. Vu leur précarité, leur point focal lance un appel aux organisations humanitaires et aux personnes de bonne volonté de leur venir en aide, notamment en vivre et non vivre. Il faut noter que la situation sécuritaire dans plusieurs localités du territoire de Massissi est devenue instable. C'est suite aux affrontements récurrents qui opposent les rebelles de l'AFC M23 au Azalendo. Ces combats ont entraîné plusieurs conséquences dans la zone, notamment le déplacement massif des populations civiles.
Au sud qui vos voisins pendant ces temps, la situation sécuritaire dans la ville de Ruhundi, dans la chefferie de Boavu en territoire de Kalehe, demeure préoccupante. Des sources issues de la société civile rapportent que des hommes armés sont devenus les principaux auteurs de l'insécurité dans ces milieux. Parmi les cas les plus récents, elles citent l'assassinat d'un habitant de la région dans la nuit de mardi à mercredi, perpétré par des hommes armés. Ce meurtre, vivement dénoncé par plusieurs acteurs locaux, a déclenché des manifestations dans la région. L'information confirmée par les députés provinciaux Lebon Balungwe et Lude Kalehe. Celui-ci déplore qu'au cours de ces manifestations, qui ont coûté la vie à un militaire du M23, des arrestations arbitraires aient été opérées, ciblant des innocents. Il est joint au téléphone par Ronéline Tibonera.
Il est fort regrettable que la population civile en territoire de Mwenga, qui subissant déjà une lourde conséquence des effets de guerre qui secouaient la population du Sud Kivu et l'Est de la République démocratique du Congo, de manière générale, se retrouva encore en état pendant les accrochages entre les FRDC et les Wazalendo. Le Mwami Kalenga adresse son message de compassion à toute la population de Mwenga Centre, en particulier celle de la chefferie de Basile en général, pour avoir passé une soirée agitée sur les plans sécuritaires. Il exhorte les parties impliquées dans ces accrochages d'épargner la population civile et de privilégier les voies de dialogue pour règlement pacifique au conflit.
Province du Tanganyika, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR, sous délégation de Kalemi, a procédé au rapatriement volontaire des réfugiés burundais dans leur pays d'origine. Le processus de rapatriement a été lancé ce mercredi à l'aéroport national de Kainda à Kalemi. Ces réfugiés ont passé 10 ans en République démocratique du Congo. Ils avaient fui les violences dans leur pays. Le point avec Paul Munanga.
Ce premier groupe de rapatriés burundais proviennent particulièrement des villages Tabakongo et Mulicha en territoire de Kalemi. Cette première vague est constituée de 38 réfugiés burundais. Il y a aussi un autre groupe de 23 réfugiés burundais à Lubumbashi qui attend d'être rapatriés, rapporte la chef de bureau d'IHCR sous délégation de Kalemi. Quelques réfugiés burundais expriment leur satisfaction. Nous sommes très heureux de retourner dans notre pays d'origine. Le HCR avec d'autres départements ont fait le nécessaire pour notre retour. Nous avons hâte de retourner chez nous pour des retrouvailles avec nos amis et d'autres personnes. Je suis comblé du fait que je rentre dans mon pays. Je suis arrivé ici à Kalemi en 2015. Je suis contente parce que le HCR s'organise pour nous retourner chez nous. Le HCR nous a assistés, il a financé l'enseignement de nos enfants, nous les remercions. Signalons que ces réfugiés burundais qui ont trouvé asile en RDC avaient fui les violences qui ont prévalu dans leur pays en 2015. Une situation qui a créé un déplacement massif des Burundais vers la RDC, souligne le HCR. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
La ville de Matadi au Congo central vit sa deuxième journée consécutive des embouteillages monstres créés notamment par des véhicules poids lourds. À cause de ces bouchons constatés dans toutes les artères principales de la ville, la population fait de longues distances à pied. À cet effet, l'Association congolaise pour la promotion des humains, ACPH en sigle, qui considère cette situation comme étant de l'insécurité routière, se pose la question de savoir si la décision prise dans l'arrêté urbain interdisant l'entrée des véhicules à gros tonnage avant 22h à Matadi est toujours d'application. Reportage de Nana Plurich Mambou, rendu par Sifa Maguru.
Depuis l'avant-midi d'hier mercredi à ce jeudi, un flux de véhicules poids lourds a pris d'assaut toutes les artères secondaires et principales de la ville de Matadi. Ces embouteillages monstres ne permettent pas à la population de se mouvoir aisément pour atteindre les centres-villes, siège de plusieurs administrations. Ceux qui habitent vers Mvuadou, Bouima et Kinkanda font le pied. Même à pied, ils circulent difficilement car les trottoirs de la ville sont pris d'assaut par les commerce. Colino Mbala est coordonnateur de l'Association congolaise pour la promotion des humains déplore cette situation.
Il y a des textes qui interdisent la circulation journalière des véhicules de gros tonnage. Mais nous ne comprenons pas. D'abord, la nuit, vous ne pouvez pas circuler parce qu'il n'y a pas de l'éclairage public. Et la journée, même si les gens se réveillent le matin pour arriver au travail à temps, ils peuvent arriver à 9h, 10h. C'est à cause des embouteillages.
En revanche, Dominique Mbete précise que la mesure interdisant l'accès des véhicules poids lourds avant 22h à Matadi ne donnera jamais lieu à l'invisibilité totale de ces camions dont la circulation est aussi indispensable pour notamment alimenter la ville de Kinshasa.
Restons dans la ville de Matadi au Congo central pour parler du mauvais état du tronçon reliant le rond-point Mikondo aux avenues Kinshasa et Landou dans la commune de Mvuzi, qui donne du fil à retordre aux conducteurs des motos. D'après ces derniers, ils font des accidents tous les jours et ce sont des passagers, majoritairement des élèves, qui s'en sortent avec des blessures et des fractures notamment. Ils lancent un cri de détresse au maire de la ville, Dominique Nkodiambete, et au gouvernement provincial pour la réhabilitation de cette route. Le point avec Nana Plurich Mambou.
Les tronçons reliant les ronds-points Mikondo aux avenues Kinshasa et Landou dans la commune de Mvuzi se trouvent dans un état de délabrement avancé. Et pourtant, il est très important pour les habitants de ces coins car il passe par l'église catholique Saint-Gérard, la mission kimbanguiste, pour aboutir à la place dite Momo. Cette route est parsemée de nids de poules. Ces conducteurs de motos appellent les autorités à penser à sa réhabilitation.
En tout cas, nous avons des difficultés par rapport à cette route. Il y a des accidents qui se font ici, mais jusqu'à présent, il n'y a aucune personne là du gouvernement congolais est venue pour voir cette route. Voilà pourquoi nous avons des difficultés. Et nous demandons au maire de la ville de nous venir en aide pour éviter le cas des accidents.
Signalons qu'en début 2024, la mairie de Matadi avait fait jeter des concassés et du sable sur cette voie dans l'optique de la bétonner, mais jusqu'à présent, les travaux ne débutent toujours pas au grand désarroi de la population. Matadi, Nana Plirish Mambu, Radio Okapi.
À Kisangani, certains élèves n'ont toujours pas repris le chemin de l'école deux semaines après la reprise de la rentrée scolaire 2025-2026. En cause, l'obligation faite par certains chefs d'établissement scolaire aux parents d'élèves de n'acheter les fournitures scolaires que dans leurs propres écoles. Le ministre provincial de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté tape du poing sur la planche. Les chefs d'établissement qui s'adonnent à ce genre de pratiques s'exposent aux sanctions sévères. Le point avec Jacques Moukonkole.
Certains parents déclarent que leurs enfants continuent à traîner à la maison deux semaines après la rentrée scolaire. Motif, certaines écoles imposent l'achat des fournitures scolaires dans leurs propres établissements. Or, les prix fixés sont exorbitants par rapport à ceux du marché, d'où la frustration des parents et d'élèves.
On me dit d'acheter les fournitures scolaires à l'école, les uniformes. J'avais déjà acheté les cahiers, les uniformes au marché, ce qui pose un peu un petit souci.
L'imposition aux parents de l'achat des fournitures scolaires dans les écoles est interdite par la ministre de tutelle. Selon le ministre provincial en charge de l'éducation Dalla Tshopo, Simon Massimango, il est bel et bien informé de cette situation. Il compte diligenter une enquête afin de se rendre à l'évidence.
Cela a été déjà interdit par le ministre national. Que les parents achètent les fournitures scolaires de leurs enfants dans des marchés au lieu de faire vendre ça avec un prix exorbitant dans les écoles.
Les responsables scolaires qui se rendent coupables de la violation des dispositions réglementaires en cette matière s'exposent notamment à la suspension de leurs activités ou encore à des poursuites judiciaires, affirme Simon Massimango. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Santé à présent, l'épidémie du virus Ebola sévit dans la province du Kasaï depuis plus de deux semaines. Au regard de l'intensité du trafic entre les Grands Kasaï et l'espace Grand Katanga, dont la province du Oromami et les passages obligés, les autorités de cette dernière province se mobilisent pour éviter toute propagation de cette épidémie dans leur entité. D'autres détails avec Dr Adlar Umbandolo, le ministre provincial de la Santé dans le Haut-Lomami, joint par Jean Gandou Kabongo.
Il y a plus les groupes de surveillance et de prise en charge qui sont mis en œuvre. Au point d'entrée, deux ou trois personnes sont commises pour assurer le suivi en rapport avec cette épidémie. Parfois, ceux-là qui viennent avant d'entrer descendent de véhicules et prennent chacun sa direction pour entrer à Kamina. Comme les voies sont connues, on essaie toujours de les rattraper pour poser des questions. En cas de fièvre, en cas de ceci, on prend la personne pour les tests. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore vu un cas qui aurait présenté tous les signes en rapport avec le virus Ebola. Il faut dire que toutes les couches de la population ont été contactées pour que les mesures préventives soient mises sur pied et qu'on puisse réveiller la conscience de chacun. De manière générale, nous agissons sur les mesures préventives en se référant du temps de COVID-19.
Revenons dans la capitale avant d'aller plus loin. La question de la production d'électricité en RDC au cœur des échanges mercredi à Kinshasa entre le ministre des Finances Doudou Fouamba et l'ambassadeur de France en RDC Rémi Marichaud. La France, à travers l'Agence française de développement AFD, s'engage à accompagner la RDC dans ses défis de développement, notamment dans les secteurs énergétiques en réhabilitant le barrage de la Tshopo. Grâce à Mzati Massanzi, nous fait le point.
Au cours de cette rencontre, le ministre Doudou Fouamba a exprimé les attentes des populations et des élus des provinces confrontés à une pénurie d'électricité persistante. Il insiste sur l'urgence de trouver des solutions durables et rapides. De son côté, l'ambassadeur Rémi Marichaud souligne la détermination de l'AFD à répondre à cet impératif en adaptant le projet initial de réhabilitation du barrage de la Tshopo sur lequel l'agence travaille depuis juillet 2023. Un autre point abordé porte sur le projet du barrage de Rusizi 3. Il s'inscrit en effet dans une démarche de soutien aux efforts diplomatiques des États-Unis pour la restauration de la paix dans l'est de la RDC, affirme le ministère des Finances. La France, par les biais de ses projets, vise à promouvoir l'intégration économique régionale et à garantir que les populations et les pays riverains bénéficient concrètement et rapidement des retombées de la paix retrouvée, déclare l'ambassadeur. Ce dernier a profité de cette occasion pour présenter le nouveau directeur de l'Agence française de développement AFD en RDC, Hervé Conan.
Actualité internationale.
Au Togo, l'ancienne ministre des Armées Marguerite Niagadé a été interpellée par les services de sécurité en fin de matinée à son domicile à Lomé. Elle doit encore être entendue par les autorités. Démise de ses fonctions en 2022, cette dernière s'est faite connaître par ses prises de position sur les réseaux sociaux, vidéos et publications dans lesquelles elle appelle à un changement à la tête de l'État. Elle a également soutenu et tenté de participer au mouvement des 6 juin.
L'invité.
Radio Capi reçoit l'ingénieur Sylvain Idimbo Bin Munganzi, coordonnateur provincial du service national de promotion de l'élevage familial et intrants connexes. Dans son entretien avec Florence Kizalunga, il nous parle des pratiques améliorées de l'élevage de poules et de porcs apprises aux organisations paysannes d'éleveurs de Kindu Pangi et Lubutu. Ingénieur Sylvain Idimbo Bin Munganzi, son entretien avec Florence Kizalunga.
Ingénieur Sylvain Idimbo Bin Munganzi, bonjour.
Oui, bonjour Madame la journaliste.
Quel a été l'objectif, les soucis pour votre service en formant ces éleveurs sur l'élevage des porcs et des poules?
Notre souci majeur est de renforcer les capacités techniques des éleveurs de la province du Maniema afin qu'ils puissent améliorer leur mode d'élevage pour contribuer à l'amélioration de leur production afin de pallier à certaines difficultés de leur ménage.
Après cette session de formation, on peut savoir quel est ce mode d'élevage amélioré?
Premièrement, nous voulons lutter contre l'élevage en divagation compte tenu des différentes difficultés qu'il rencontre. C'est pourquoi cette session de formation a été organisée pour les amener à élever en stabilisation. Personne n'ignore l'importance de l'élevage en stabilisation qui contribue favorablement à l'épanouissement des différentes fermes des éleveurs. Ça contribue aussi à l'amélioration et à l'augmentation rapide des têtes des animaux dans les différents cheptels.
L'élevage en stabilisation demande beaucoup de moyens, donc vous êtes obligé de garder les animaux dans une maison par exemple, et il faut les nourrir, il faut bien les soigner. Comment est-ce que vous allez accompagner ces gens?
C'est ça notre élite. Avant d'abord de les accompagner, on a voulu les montrer l'importance de ce type d'élevage, parce que comme vous le savez, le CNAPFIC, c'est un service technique du ministère des Pêches et Élevage qui a comme devoir d'encadrer les éleveurs. Alors, à ce qui concerne les cas présents à notre possession, nous allons accompagner les structures cibles en leur dotant les poules, les porcs de race améliorée, et nous allons aussi les accompagner en leur dotant l'alimentation qui va les servir à nourrir les bêtes durant 3 mois, parce que on ne saura pas continuer toujours à donner à manger. Ils doivent apprendre aussi comment chercher à élever dans ces systèmes que nous venons de citer ici. Et nous mettrons aussi à leur disposition les techniciens vétérinaires et zootechniciens pour les accompagner dans des appuis conseils et traitement des animaux à tout moment où ils auront besoin d'eux.
Les zootechniciens demandent de l'argent. Qui va prendre en charge ces zootechniciens?
L'encadrement des éleveurs, c'est une mission spécifique du CNAPFIC, et nous avons un petit souci au niveau de la province du Maniema par rapport au cas que vous venez d'évoquer, parce que 99% des agents des CNAPFIC Maniema sont des nouvelles unités. Ils ne sont pas pris en charge par le gouvernement central, pas même au gouvernement provincial. C'est pourquoi le partenaire a songé quand même à disponibiliser les moyens de transport qui leur facilitera à descendre sur terrain pour effectuer les missions conviées à leur responsabilité.
Votre service vit toujours avec ces éleveurs. Quelle est la conséquence de l'élevage en divagation?
L'élevage en divagation a plusieurs conséquences, Madame la journaliste. Il y a la facilité de vol. Les animaux mangent n'importe quoi. Les animaux créent des accidents parce qu'ils ne sont pas contrôlés. C'est pourquoi nous, avec notre partenaire Padré, nous sommes en train de lutter contre ce type d'élevage.
Si les participants arrivaient à mettre en pratique toutes les notions apprises ici, qu'est-ce que ça peut donner comme bons résultats dans la province du Maniema et la ville de Kindu en particulier, messieurs.
Si du moins les participants parviennent à mettre en application tout ce qu'ils viennent de voir dans la salle d'Ira 5 jours, en tout cas, ça sera très capital dans leurs activités d'élevage. Premièrement, ils verront leur cheptel augmenter très rapidement. Et deuxièmement, ça va contribuer aussi à l'amélioration de leurs conditions de vie. Parce que personne n'ignore que dans le monde, tous les pays qui se sont fait développer se sont développés par l'agriculture et l'élevage. Alors, si ces participants parviennent à mettre en application, ça sera très bénéfique dans leur vie quotidienne et ça favorisera aussi la duplication de ce type d'élevage dans d'autres provinces. Nous attendons à ce que les éleveurs de la province du Maniema puissent changer d'abord le mode d'élevage qu'ils pratiquent tout en se séparant de l'élevage en divagation. Parce que s'ils parviennent à adopter ce type d'élevage, ça va changer leurs conditions de vie et ça va augmenter aussi le nombre de têtes dans leur cheptel.
Ingénieur Sylvain Idumbobino Mungazi, je vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
C'était notre invité, ingénieur Sylvain Idumbobino Mungazi, qui s'entretenait avec Florence Kizalunga. Et c'est ce qui met fin à notre grande édition du journal Vespéral, coordonnée par Richard Junior Kamunga, supervisée par Poli Mouzalia, Pierre Diassino à la mise en onde. Vous pouvez réécouter ce journal sur toutes nos plateformes digitales, ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net. Thank you.